Voilà, je n'ai rien à ajouter que ne va dire de toutes les façons Monsieur Bérard, à qui je donne la parole. Merci à vous d'être venu.
Voilà, je vous remercie énormément pour votre invitation. Donc, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je viens à Saint-Antonin. Et donc, je sais que beaucoup parmi vous connaissent le site, peut-être ne l'ont pas visité encore, mais au moins le connaissent. Et donc, le patrimoine que je vais vous présenter, c'est également un patrimoine autour d'ici, puisque vous allez le voir sur la carte, beaucoup de phosphatières sont tout autour de nous, là, sur l'Écosse qui nous entoure. Voilà, donc les phosphatières du Quercy, donc il y a ce site à Bâche qui se visite. Et donc moi, j'ai voulu faire un petit éclairage sur le travail des paléontologues qui travaillent dans ces phosphatières depuis l'exploitation minière et particulièrement depuis 1960. Donc je vais vous présenter quelques figures. Alors un petit mot sur qui je suis. Donc moi ça fait 16 ans que je suis piqué par le virus phosphatière en fait. Donc ça fait depuis le 1er juillet 2003 que je suis guide animateur au niveau des phosphatières du Club d'Oral. Depuis 2009 donc je suis responsable du site et donc c'est avec grand plaisir que je me déplace vers vous donc pour vous présenter un petit peu ce patrimoine. Voilà, donc moi je ne suis pas scientifique, je suis animateur scientifique. Donc mon travail c'est un petit peu de faire passer le message des scientifiques auprès du grand public en employant si possible des mots simples, compréhensibles par tout le monde. Et donc vous allez voir la conférence que je vais vous faire. On a l'habitude d'avoir pas mal de scolaires sur le site, donc elle est, je l'ai voulu pédagogique. Après, si parmi vous il y a des gens qui veulent en savoir plus, j'ai prévu quelques diapositives supplémentaires sur le travail des paléontologues. Voilà, donc je vous en parlerai en fin de diaporama. Voilà, donc les phosphatières du Quercy, un laboratoire naturel de l'évolution. Donc derrière ce titre se cache plein de choses, et assez étonnantes d'ailleurs. Donc, première question, une phosphatière, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est plusieurs choses en fait. Donc, d'abord, au niveau de la localisation, vous pouvez voir que donc il y a environ 300 sites qui sont situés sur le sud des Causses du Quercy. Donc, même si il y a le parc naturel régional des Causses du Quercy qui s'arrête à la frontière nord d'ici, en fait, les Causses du Quercy, ça va jusqu'ici et même un peu au-delà, juste en face, là. Et donc, c'est sur cet ensemble géologique, en fait, que sont ces phosphatières. Donc, il y en a énormément tout autour d'ici. Et donc, la zone des phosphatières va de Sauliac-sur-Célé au nord. Donc c'est sur la vallée du Célé, les deux petits points qui sont là-haut, et jusqu'à Bruniquel, tout à fait au sud là. Et donc avec une grande concentration de phosphatières, donc autour du village de Bâche où est située la phosphatière du Club d'Oral que vous avez marquée avec la petite flèche là, mais également sur tout le Causse qui entoure Quélus et Saint-Antonin ici tout autour de nous. Alors, quel aspect ça a? Au départ, en fait, on n'a pas l'impression d'être dans une mine où on a exploité quelque chose. En fait, ça a l'aspect de grotte et de gouffre, en fait. Donc, tantôt à ciel ouvert, tantôt parfois en galerie. Donc, c'est des cavités souterraines à la première impression, mais remplies de végétation. Vous verrez quelques petites photos par-ci, par-là. Alors, malheureusement, ces phosphatières, par leur histoire, sont devenues à une certaine époque des décharges d'ordures. Donc certaines le sont encore en fait. Et donc ça, c'est l'aspect qu'elles ont et souvent sous lequel elles sont connues si on ne connaît pas leur histoire. Et puis également, tous les étés, depuis 1960, il y a des scientifiques qui viennent faire des explorations paléontologiques. Donc la paléontologie, c'est la science qui étudie les fossiles. Et donc on a la chance depuis 10 ans sur le site d'avoir chaque été la base arrière, en fait le laboratoire de ces paléontologues qui s'installent sur le site. Donc je vous en parlerai tout à l'heure en fin de conférence. Également donc c'est un site de visite, donc souvent c'est comme ça que c'est connu, la phosphatière du Club d'Oral. Mais comme vous l'avez vu, ce n'est pas la seule qui existe, mais c'est la seule effectivement qu'on peut visiter de manière animée, etc. Voilà. Et puis également, ben, au départ, si on appelle ça des phosphatières, c'est qu'il y a eu en fait des exploitations de phosphates à l'intérieur. Alors, dans la présentation en fait de la conférence, j'ai vu que donc on avait parlé de Eugène Truta, également de Émilie Gallup, donc qui a fait aussi des photos des phosphatières. Donc, il se trouve que bah, ces deux personnes, au cours du 19e siècle, ont photographié des phosphatières. En tout cas, celle d'Eugène Truta, elle est située pas très loin d'ici, entre Sepfon et Saint-Antonin, sur le lieu-dit Rénal, en fait. Donc, c'est bah, cette phosphatière qui a été photographiée. Donc, on voit là une exploitation en terrasse. Donc, on aperçoit les mineurs et on voit bah, certains systèmes de treuil sur d'autres vues. Voilà, donc au départ, l'histoire de ces phosphatières, c'est qu'entre 1870 et 1886, pour la plupart, elles ont été exploitées pour y exploiter du phosphate. Et donc, bah, je vais vous expliquer un petit peu donc, ce que c'est. Alors, un petit arrêt sur image. Le phosphate, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, dans le langage, on emploie plusieurs termes, d'ailleurs. Ce qu'on devrait dire plus proprement, c'est que ce sont des gisements d'une roche qu'on appelle la phosphorite. Donc les phosphatières, ce sont des mines de phosphorite exploitées au 19e siècle. Voilà, alors la phosphorite, donc mine de phosphorite, la phosphorite, qu'est-ce que c'est? Donc la phosphorite, c'est une roche qui contient du phosphate. Voilà un petit peu l'aspect que ça a. Donc elle se présente sous plusieurs formes, des nodules, de la croûte, mais également des fossiles. Et donc cette roche qui contient ce phosphate, le phosphate, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une molécule chimique composée de phosphore qui rentre dans la composition des engrais. Voilà donc la formule chimique ici. Et donc ben, phosphate, phosphorite, phosphatière, ça contient tout la même racine. C'est donc le phosphore, donc il y a un élément chimique de la classification périodique et donc qui est contenu dans cette molécule. Voilà. Donc en tout cas, bah, c'est la molécule phosphate qui fait pousser les plantes, donc ça développe les racines et ça permet de faire de plus beaux fruits, d'où son utilisation au 19e siècle, donc pour transformer cette poudre de phosphorite en engrais. Voilà, donc au départ, c'est ça une phosphatière. Alors, autre chose, donc vous pouvez me poser des questions après par la suite, hein, je vais assez vite. Après, bah, c'est des choses qu'on raconte plus lentement en fait sur le site des phosphatières. Donc je vais un peu rapidement pour laisser une large place aux questions par la suite. Donc ces phosphatières, comment se sont-elles formées? Donc au départ, elles ont un contenant. Le contenant, on l'a tout autour de nous ici sur les falaises, c'est le calcaire. Donc le calcaire des causes du Quercy. Donc au départ, ce sont des grottes qui se sont formées dans ces calcaires. Et ces calcaires du sud du Quercy, ben voilà un petit peu quel était notre paysage il y a donc 170 millions d'années. Alors 170 millions d'années, je reviendrai tout à l'heure sur la notion de temps en géologie mesurée en millions d'années. Ben ça fait un petit peu rêver parce que tout autour de nous à cette époque-là, au Jurassique, il y avait en fait ce type de paysage. Donc le paysage ressemblait à celui de la mer des Bahamas à cette époque-là. Voilà. Et donc, ben, c'est dans ces eaux chaudes et tropicales que ce calcaire s'est déposé sous la forme de boue. Cette boue a durci et donc a donné les calcaires qui nous entourent ici tout autour. Par la suite, donc, l'histoire se poursuit. Période suivante où les dinosaures étaient présents sur Terre, c'est le Crétacé. Donc au Crétacé, on a en fait un phénomène qui se passe. Donc sur le bord des côtes, en fait, on a des remontées d'eau. Alors excusez-moi, c'est en anglais, j'ai pas eu le temps de le traduire. Hein. On a des remontées d'eau froide en fait qui vont venir sur le bord de la côte et un élément nutritif très important qui vont venir nourrir en fait les organismes qui sont sur le bord de la côte. Ce sont des eaux chaudes et tropicales. Donc du coup, on a beaucoup de matière organique déjà qui est présente. Donc du plancton, phytoplancton, zooplancton, mais aussi des poissons, des algues. Et donc tout ça va énormément se développer sur le bord de la côte et va se décomposer. Et la décomposition, c'est ce que vous avez en rose là, va faire en fait des sédiments, c'est-à-dire de la vase, de la boue qui va se déposer au fond de l'eau et qui va s'enrichir en phosphate. Et ces gisements de phosphate, bah, aujourd'hui, ils sont exploités en Afrique du Nord, en Floride. Donc sachant que la phosphorite au départ, Elle a été exploitée dans le Quercy, ici. Mais aujourd'hui, c'est la troisième matière première la plus échangée après le gaz et le pétrole. Et donc, on l'exploite d'abord en Chine, au Maroc, aux États-Unis et en Russie. Et chaque année, aujourd'hui, on produit 350 millions de tonnes de phosphorite par an, en fait. Et donc, essentiellement, pour produire des engrais. Voilà, donc, la formation du phosphate, c'est ça. C'est-à-dire, dans les couches supérieures de calcaire, on a un enrichissement en phosphate d'origine marine. Et puis, par la suite, donc à la fin du Crétacé, au moment où les dinosaures disparaissent, à ce moment-là, le niveau de la mer baisse. Et donc, on se retrouve avec des paysages qui ressemblent un petit peu à ça, avec du calcaire qui est en surface. Et quand la pluie tombe sur le calcaire, eh bien, elle va faire deux choses. Elle va d'abord s'infiltrer en profondeur pour aller former en profondeur des cavités souterraines. Et donc, au départ, une phosphatière, souvent, ça se forme à 400 mètres de profondeur. Et c'est une rivière souterraine complètement remplie d'eau. Et puis par la suite, ben, ça ne reste pas en surface. Petit à petit, le niveau du sol descend à cause de ce phénomène qu'on appelle l'érosion. Et donc petit à petit, le niveau du sol se rapproche de la cavité souterraine. Donc lors de cette décomposition, on va avoir des argiles qui vont se former, mais également du phosphate qui va venir se concentrer dans ces argiles. Et puis finalement, ben, à un certain moment, la cavité va s'ouvrir. Et donc on va avoir un certain nombre de choses qui vont tomber dedans. Donc d'abord de l'argile qui va tomber à l'intérieur, c'est ce qui est rouge là, et puis également des restes d'animaux, la plupart du temps déjà morts, plus des animaux qui vivent à l'intérieur. Là, vous voyez, vous avez une chouette également. Et puis donc, en l'espace de quelques milliers d'années, encore une fois, je vais revenir sur ce temps géologique, eh bien, ces cavités vont se boucher. Et pour le géologue et le paléontologue, quelques milliers d'années, pour lui, c'est très court. Ils appellent ça un instantané géologique, puisque c'est inférieur aux millions d'années. Et par la suite, donc au XIXe siècle, ces cavités qui se sont ainsi formées sont vidées pour aller chercher du phosphate à l'intérieur. Et les fossiles qui ont pu se former à partir des animaux qui sont tombés dedans, beaucoup sont détruits par l'exploitation. Voilà, donc les paléontologues, aujourd'hui, donc l'exploitation, elle a eu lieu sur une assez courte période, environ 15 ans, 40 ans maximum pour les phosphatières les plus longtemps exploitées. Donc l'exploitation s'est arrêtée en 1926 près de Cajar, en fait. La phosphatière du Club d'Oral qu'on visite, elle a été fermée en 1906, mais la plupart de ces phosphatières ont fonctionné une vingtaine d'années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste encore des fossiles qui n'ont pas été broyés, et donc les paléontologues, aujourd'hui, descendent à l'intérieur de ces cavités pour aller rechercher ces fossiles. Alors, j'ai beaucoup parlé de temps en géologie, et j'ai beaucoup utilisé une unité de temps qui nous dépasse, même à moi, au bout de 16 ans, quand je fais mes visites. C'est vrai que ça fait un petit peu mal à la tête, ces millions d'années. Donc, un million d'années, qu'est-ce que ça peut représenter? Alors, l'unité de temps en géologie, voilà, le million d'années avec tous les zéros derrière. Donc, l'abréviation, pour ne pas se traîner, c'est 6 zéros, donc on le met en M, grand M, petit a. Alors c'est à la fois long pour nous, mais c'est court pour les géologues et les paléontologues. Et vous allez voir pourquoi, parce que si on le met à diverses échelles, finalement un million d'années c'est assez court dans l'histoire qu'on raconte. Voilà, ça dépend de l'échelle à laquelle on se place. Alors, on va prendre l'échelle qu'on connaît le mieux, donc la nôtre, le temps de l'homme. Donc l'homme au sens large, vous allez comprendre pourquoi, ce n'est pas seulement notre espèce, Homo sapiens ou Homo sapiens sapiens, c'est l'ensemble de la lignée humaine qui a eu lieu au cours du temps. Alors, cette lignée humaine, en fait, voilà l'échelle que j'utilise, ce petit trait jaune représente un million d'années, et donc on va prendre en fait 6 millions d'années. Alors 6 millions d'années, Aurorine, qu'on appelle aussi Millennium Ancestor, c'est pas tout à fait notre ancêtre direct. C'est un des parents des Australopithèques, donc nos cousins en tant qu'espèce. Et puis, donc, on a 6 millions d'années la formation de ces premiers cousins à nous. Et puis, donc, voilà les Australopithèques qui arrivent derrière. Alors, l'Australopithèque, le plus connu ou la plus connue des Australopithèques, elle a 4,2 millions d'années. Donc, ça fait déjà pas mal hein, quand on regarde un petit peu au niveau de ces temps-là. C'est Lucie. Donc, c'est au niveau médiatique celle qui est le plus connue. Ensuite, donc, ça, c'est le premier de notre lignée, Homo habilis, l'homme habile, donc qui apparaît vers 2 millions d'années environ, 2,3. Donc, il a vécu en même temps que les derniers Australopithèques. Puis, ensuite, donc, on a Homo erectus, l'homme debout, qui apparaît environ vers 1 million d'années. Et puis, donc, y a l'homme de Néandertal qui nous a précédés, donc qui nous a connus aussi. Et puis, nous, on est tout à fait au bout ici. Voilà. Donc, voilà un petit peu sur l'échelle de 6 millions d'années. Donc, on est apparu il y a à peu près 100 à 200 000 ans. Voilà ce que représente, en fait, ce petit trait bleu, en fait, à la fin. Voilà ce que représente, ce qu'on représente, nous, par rapport aux millions d'années. Donc, c'est vrai que si on prend cette échelle-là, 1 million d'années, c'est long. Mais, du coup, si on reprend cette échelle et qu'on change le référentiel, donc, les plus connus en paléontologie, ce sont les dinosaures. Donc, les dinosaures, ils sont apparus à la surface de la Terre il y a 250 millions d'années. Donc, pour représenter ça, notre trait jaune de tout à l'heure qui représentait 1 million d'années, maintenant, on a un trait vert qui représente 50 millions d'années. Et pour remonter à l'époque de l'apparition des dinosaures, on a besoin de 5 de ces traits verts. Voilà. Donc, voilà ce que représente par rapport à aujourd'hui l'apparition des dinosaures. Donc, là-dedans, le temps de l'homme, mais 6 millions d'années de tout à l'heure, voilà ce qu'ils représentent ici au bout. Voilà donc les dinosaures, tout le temps qu'ils ont vécu sur cette échelle-là, donc de 240 à 65 millions d'années, donc début du Trias, donc la première époque de ce qu'on appelait avant l'ère secondaire et qu'on appelle aujourd'hui le Mésozoïque, jusqu'à la fin du Mésozoïque ou de l'ère secondaire jusqu'à la fin du Crétacé. Et puis, donc, voilà le paysage dont j'ai parlé tout à l'heure, 170 millions d'années, voilà donc où il se place dans cette échelle-là. La formation des phosphatières, 90 millions d'années, vous l'avez ici. Et puis, donc, la formation de toutes ces phosphatières, donc entre 50 et 20 millions d'années. Donc, chacune de ces phosphatières s'est formée à une époque, mais mise bout à bout, ça représente cette longueur de temps-là. Voilà donc un petit peu nos phosphatières, ce qu'elles représentent par rapport aux dinosaures. Ça fait déjà plus petit. Et alors après, si on prend une autre échelle, c'est-à-dire l'époque, le temps de la formation de la Terre. Donc la Terre s'est formée approximativement il y a 4,6 milliards d'années. Donc à cette échelle-là, voilà, 1 milliard d'années, c'est de nouveau mon référentiel, comme ça, en trait rouge, à peu près la même longueur que mes autres échelles. Voilà donc l'histoire de la Terre, donc résumée sur le même trait. Donc cette fois-ci, chacun des traits représente 1 milliard d'années, donc 1000 millions d'années. Et donc voilà un petit peu ce que représente l'échelle du temps des dinosaures en vert, tout à fait au bout, là. L'apparition de la vie, donc elle se fait 1 milliard d'années environ après la formation de la Terre, voilà où est-ce qu'elle se place. L'apparition des organismes multicellulaires à peu près 2 milliards d'années, 2100 millions d'années. La vie, elle vit dans les océans jusqu'à à peu près 500 millions d'années, 465 millions d'années, voilà donc où ça se place, le moment où la vie sort des océans. Et puis donc nos phosphatières, c'est le tout petit trait jaune qui est là-dedans. Donc voilà pourquoi 1 million d'années, pour nous c'est long, mais pour les géologues, s'ils pensent en temps de la Terre, c'est vraiment très très court. Voilà donc un petit peu ce que représente un petit peu tout ça. C'est toujours pareil, moi je m'intéresse aussi un petit peu à l'astronomie. Quand on commence à regarder les distances auxquelles sont les planètes les plus proches, les étoiles les plus proches, etc., les galaxies les plus proches, et tout ça, ça fait mal à la tête parce que c'est un petit peu les mêmes jonglages en fait. Ça nous dépasse un peu au niveau de notre cerveau, un petit peu tout ça. Donc c'est vrai que là, on a des représentations comme ça. Et si vous avez l'occasion de venir sur le site du Club d'Oral, vous verrez, on a un endroit qu'on a appelé le Sentier du Temps, où on a représenté une échelle comme ça, donc on a fait sur 200 mètres 100 millions d'années, et tout autour du site, on a une randonnée qui est aménagée sur 9 km. À cette échelle-là, 2 mètres égale 1 million d'années, ça représente 9 km. Et donc le long de cette randonnée, on a placé des panneaux comme ça, qui montrent en fait ces différentes choses. Voilà, donc on a essayé de représenter de la distance par du temps par de la distance. Voilà, c'est peut-être pas forcément la bonne représentation, mais ça aide un petit peu le cerveau à comprendre un petit peu tout ça. Voilà, je reprends donc le fil de ma conférence et donc je vais vous parler un petit peu de la paléontologie dans les phosphatières. Donc on est pratiquement à 160 ans depuis la découverte de la première phosphatière et donc je vais vous parler de la première personne qui apparaît dans ces 159 ans de chronologie de la paléontologie dans les phosphatières. C'est un Tarn-et-Garonnais, donc nommé Jean-André Poumarède, originaire de Réalville. Donc sa vie est un roman, peut-être un jour on en fera un film d'ailleurs. Pour vous la résumer, en fait, au départ, il n'avait pas du tout envie de se fixer quelque part. Il a eu envie d'explorer le monde, donc à 16 ans, il s'est engagé comme mousse sur des bateaux. Et puis à 18 ans ou à 21 ans, son père l'a rattrapé, lui a dit « Bon, écoute, maintenant tu te trouves un travail, donc tu te mets aux études. » Et comme il était brillant, il est rentré à l'université. Et à l'époque, les scientifiques, ils avaient plusieurs diplômes possibles. Ils pouvaient faire plusieurs diplômes. Donc il a eu une thèse en médecine, une thèse en pharmacie, une thèse en chimie et une thèse en géologie. Du coup, armé de ce bagage, une fois qu'il a fait ses études, qu'il a fait plaisir à son père, il est reparti à l'aventure. Il est parti en Amérique du Sud, donc il a démarré comme contremaître dans une mine, puis après il en est devenu directeur, puis propriétaire, puis propriétaire d'une mine de cuivre au Mexique. Et puis en 1861, Napoléon III a fait son débarquement raté au Mexique, et donc les Français ont été virés en fait du Mexique. Et lui, du coup, est revenu en Tarn-et-Garonne, et donc il a utilisé l'un de ses diplômes, et il est devenu pharmacien à Réalville. Et donc en 1865, sur le lieu dit Cos, en fait, au-dessus de Quélus, il se baladait dans la campagne, et dans un champ de son cousin, il a remarqué que le blé était haut. Comme il se tenait un petit peu informé des prospections minières, il était au courant qu'à l'époque, les Anglais étaient très friands de recherche de phosphorite. Donc on était en pleine révolution industrielle en Angleterre et les Anglais produisaient déjà beaucoup d'engrais. Ils avaient très très peu de ressources de phosphate chez eux. Et donc du coup, ils se sont mis à en rechercher dans le monde entier. Il était au courant de ça. Et donc il a eu l'intuition que dans ce champ, il y avait quelque chose de pas normal. Le blé était très haut, tandis qu'il poussait très mal sur les côtés. Et donc, il s'est dit qu'il y avait quelque chose. Donc il est rentré dans ce champ. Et en fait, dessous, il y avait une phosphatière. Donc il a trouvé des roches, il les a analysées lui-même, puisqu'il était chimiste, et il a déclaré sa découverte. Et à ce moment-là, des Anglais sont venus dans le coin et ont recherché en fait des phosphatières. Et dans sa déclaration, c'est pour ça que je le mets dans la paléontologie, il a déclaré donc au préfet du Tarn-et-Garonne l'intérêt que pouvait avoir sa découverte, à la fois pour l'industrie française pour les phosphates, mais aussi pour la science, parce qu'il avait aussi découvert lui-même des fossiles. Voilà, donc ça a été le premier, entre guillemets, paléontologue de notre histoire. Par la suite, pendant l'exploitation minière, les scientifiques n'étaient pas les bienvenus sur les exploitations, puisque les mineurs broyaient énormément de fossiles, et c'était de l'argent. La phosphorite, ça valait cher à l'époque, et donc du coup, on ne voulait pas perdre de matière. Donc en fait, certains mineurs ont désobéi, ont mis des pièces dans leur poche, et ont transmis ça à des paléontologues. Et donc, par exemple, Henri Fiol, qui est ici, donc qui était à Paris à l'époque, donc a reçu ces fossiles, fossiles dits miniers, puisque ils ont été collectés par les mineurs, et les a analysés, les a dessinés, etc. Et donc a fait un très très beau livre de dessins des fossiles, des phosphatières. Il en a nommé beaucoup aussi. Et puis après, on a mis ça dans des placards. Ça arrivait en vrac, c'était pas vraiment daté. On a mis ça dans les placards, et puis vers 1910-1920, on s'y retrouvait plus du tout parce que on avait des fossiles qui ne correspondaient pas du tout entre eux. Vous allez voir tout à l'heure un petit peu ce que ça donne. C'était tout mélangé et on ne pouvait plus rien en faire. Donc on s'est dit, dans les années 1920, les phosphatières au niveau scientifique, c'est terminé. Donc on les met en veilleuse. Et donc on a un petit peu oublié tout ça dans les placards. Et il a fallu attendre donc 1937 pour qu'un géologue toulousain nommé Bernard Gèze, qui était passionné de spéléo, vienne dans le Quercy, ici, et donc explore un petit peu toute la zone. Donc il a fait cette carte, il a fait des relevés, il a fait aussi une première carte en fait de relevés de ces phosphatières. Et il s'est aperçu que quand on descend dans une phosphatière, on a un lieu égal un âge. Alors un âge, attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, 100 000 ans, quelques milliers d'années. Donc chaque phosphatière représente une époque géologique particulière. Et là, ça devient intéressant parce que du coup, on va pouvoir revenir dans les phosphatières. Alors, la guerre en 1939-1940 arrive, la recherche française est complètement démantelée, et puis après la guerre, il va falloir reconstituer ces laboratoires. Donc en fait, ça prend un petit peu de temps, ça va prendre toutes les années 50, ce qui fait qu'en fait, le véritable démarrage des recherches de terrain, là où les paléontologues vont revenir dans ces phosphatières pour rechercher ces fossiles, ça va dater de 1960. Et donc c'est à partir de là que commencent réellement en fait des recherches sur le terrain. Donc ça fera l'année prochaine 60 ans en fait que ces recherches sur le terrain ont été démarrées. Alors vous le voyez ici, donc vous avez ici mon collègue qui participe aux fouilles, si vous venez sur le site, donc on est quatre à faire les visites et lui il les fait aussi. Et puis donc à côté, il y a une paléontologue, et là vous voyez ils sont en train de faire du tamisage, je vous montrerai qu'est-ce qu'on obtient avec ça. Voilà. Alors, voilà un petit peu ce qu'on obtient. Donc, on obtient des petits fossiles souvent. Donc ça, c'est de l'ordre du centimètre, en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de règle pour voir ça, mais la petite mâchoire que vous avez, elle doit faire 2 cm ici. Toutes les petites vertèbres font quelques millimètres, etc. Donc, avec du tamisage, voilà ce qu'on trouve. Alors, aujourd'hui, d'après les paléontologues, on en est à 10 millions de fossiles découverts et analysés. Ça a été un travail énorme. Donc, ça compte aussi les anciennes collections, ce qui s'appelle anciennes collections minières du 19e siècle, mais ça compte également ces nouvelles collections qui ont été trouvées depuis 1960. Et là, donc, j'ai choisi de vous présenter des visages, parce qu'en fait, de montrer des fossiles, c'est bien joli, mais le côté humain est important. Et le côté humain dans les phosphatières, il l'est. Alors, toutes les personnes que je vais vous présenter là seront présentes sur le club d'Oral, donc à partir du 10 juillet, je vous donnerai les dates tout à l'heure, et si ça vous intéresse, vous pouvez venir les rencontrer. Alors, le premier que j'ai choisi de vous présenter, c'est Marc Godineau. Donc, c'est un expert, en fait, d'une certaine catégorie de fossiles, et donc il travaille au Muséum National d'Histoire Naturelle. Donc, c'est Monsieur Primate, en fait. Donc, il travaille principalement sur les primates. Et donc, ça, j'ai commencé par lui, parce qu'en fait, c'est dans les phosphatières les plus anciennes qu'on trouve des primates. Donc, vous avez vu tout à l'heure, 50 millions d'années, la première phosphatière se forme, 20 millions d'années, la dernière se forme, et donc ces primates, ils sont dans la région entre 45 millions d'années et 34 millions d'années. Vous avez là un petit crâne qui fait à peu près cette taille-là, qui a été découvert et étudié par lui. Alors ce petit crâne, voilà l'animal auquel ça correspond. Donc ça correspond à un lémurien ou à un tarsier. Donc ces lémuriens et ces tarsiers, vous voyez la photo du bas, c'est dans la forêt tropicale de Madagascar, également aux Comores, à Ceylan ou aux Philippines, qu'on trouve ces petits primates. Donc ça veut dire que si on les trouve ici dans les phosphatières qui sont tout autour de nous, à l'époque, le Quercia avait comme un air de Madagascar. Et du coup, c'était une forêt tropicale tout autour de nous. Donc des paysages assez étonnants. Voilà, premier paysage chronologique que je vous fais découvrir ici. Deuxième personnalité que vous découvrez là, donc c'est Monique Vianiello, donc de l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Donc historiquement, le premier laboratoire qui a repris les fouilles à partir de 1960 est l'un des premiers qui a été constitué après la Seconde Guerre mondiale. Et elle, en fait, c'est la spécialiste des rongeurs. Alors, ce rongeur-là, je me suis permis de lui donner un petit nom. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces personnages japonais qu'on appelle les Pokémon. Donc, c'est en fait des petits personnages, en fait, des petits animaux qui parlent. Et au départ, ben, ils sont tout petits. Et puis, au fil du temps, ils se battent entre eux. Et puis, au fil du temps, ils gagnent des points et ils évoluent. Donc, ils deviennent de plus en plus grands. Eh bien, en fait, Isiodoromys, c'est un genre de rongeur particulier. Au départ, il y a environ 34 millions d'années, c'est Isiodoromys minus, ça représente en fait comme une petite souris, grande comme ça. Et puis, au fil du temps, ce rongeur, en fait, donc ça, c'est obtenu en fait en tamisant énormément de fossiles de différentes phosphatières. On obtient des toutes petites dents de quelques millimètres. L'échelle là que vous avez, c'est pas indiqué, mais c'est des millimètres en fait. Donc, vous voyez, ça fait au niveau de l'échelle 1,5 mm à 3 mm en fait de hauteur de dents. Donc, c'est tout tout petit. Et donc, on va mesurer au fil du temps l'évolution de ces dents. Et en fait, on s'aperçoit que quand on prend cette lignée, on obtient différents types de rongeurs qui se suivent comme ça en lignée évolutive. Et donc, en fait, on a en l'espace de 34 à 28 millions d'années, il ne se passe pratiquement rien dans cette évolution. Donc toutes les dents qu'on trouve dans les phosphatières de ces époques-là sont pratiquement de la même taille. Et puis brutalement, à partir de 28 millions d'années jusqu'à 26 millions d'années, en 2 millions d'années, la taille de cette dent double. Et cette taille de dent, en fait, étant proportionnelle à la taille de l'animal, ça veut dire que c'est l'animal qui augmente de taille également. Et à la fin de cette évolution, voilà, c'est pour ça que c'est le Pokémon. Hein. Cet animal, il devient grand comme une gerboise. Donc, il passe d'une petite souris comme ça à un animal qui est à peu près haut comme ça, gerboise ou gerbille. Ce sont des rongeurs sauteurs des zones désertiques. Alors là aussi, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'au départ, le premier animal, c'était des animaux plutôt dans des zones assez humides. Et puis, à la fin, c'est des animaux dans des zones désertiques. Voilà donc un petit peu ce que donne cette évolution-là. Alors, pourquoi on obtient cette évolution-là? Alors, d'autres paléontologues qui travaillent parallèlement, pareil, et là aussi, c'est un paléontologue que vous pourrez rencontrer, c'est Pierre-Olivier Antoine, pareil, de l'Institut des sciences de l'évolution. Lui, c'est certainement, en regardant un petit peu les documentaires qu'on trouve un petit peu sur les chaînes de sciences aujourd'hui, c'est celui qui est le plus médiatique. Il fait pas mal de petits reportages sur ses découvertes. Et il travaille avec une autre paléontologue qui s'appelle Maëva Orliac, qui fait partie du même laboratoire. Et eux deux, en fait, donc lui, il étudie les fossiles, donc il les détermine, etc. Et elle, elle fait des dessins. Voilà. Donc du coup, voici donc l'animal, celui-là. Donc vous le verrez également si vous venez nous voir au Club d'Oral. On a son squelette à l'intérieur de la petite grotte qui est tout à fait au fond. Alors il a un nom mystérieux, en fait. Il s'appelle le Cadurcotherium. Et comme je suis ici du côté Tarn-et-Garonne, je vais vous donner son nom complet, en fait. C'est le Cadurcotherium keluxi. Alors là, vous reconnaissez un petit quelque chose. Alors, les Cadurciens, ce sont les habitants de Cahors. Le mot terium veut dire la bête sauvage. Et keluxi, derrière, veut dire bien sûr kélus. Donc en fait, c'est la bête sauvage de Cahors de kélus, en fait. Voilà. Et cette mystérieuse bête sauvage de Cahors de kélus, donc Maëva Orliac l'a redessinée, vous l'avez ici. Ben, ça ressemble alors de loin ou de près, hein, parce que voilà, tout est relatif. À un rhinocéros, bien sûr, sans cornes. Voilà, donc un petit peu, ça fait partie de la même famille que les rhinocéros, les tapirs, ou même les chevaux primitifs. Donc là, c'est intéressant parce que ça veut dire que ce rhinocéros, il ne vivait pas dans n'importe quel milieu. Et aujourd'hui, les milieux où vivent les rhinocéros, ben, c'est plutôt des paysages de savane. Alors vous le voyez, les dates évoluent un peu là aussi. On était il y a 45 millions d'années pour le lémurien de tout à l'heure. Là, on est à 30 millions d'années, 15 millions d'années plus tard. Et là, ben, on se retrouve avec un paysage assez différent. Alors, un paysage qui ressemble à des zones d'herbes sèches, comme ça. Ça, c'est un paysage de savane africaine, mais voilà, il n'y a pas de paysage actuel qui corresponde tout à fait à ça. Peut-être les paysages les plus proches, c'est un petit peu les steppes de Mongolie, un petit peu plus vertes, en fait. C'était moins aride que la savane africaine. Voilà, donc en tout cas, on voit que dans le temps, on évolue aussi dans les paysages. Et là, ben, je fais intervenir donc, aujourd'hui le chef des fouilles, donc c'est Gilles Escarguel, qui fait partie de cette nouvelle génération également de paléontologues qui sont arrivés après la retraite des anciens qui a eu lieu vers 2005-2006. Et lui, donc, il fait partie du laboratoire de Lyon. Et sa spécialité, c'est l'étude de ce qui s'appelle les paléo-environnements, c'est-à-dire les environnements du passé. Alors lui, il trace des diagrammes, en fait. Alors, c'est un petit peu compliqué, ces diagrammes comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais, en fait, c'est assez simple à comprendre. Donc, c'est ce qu'on appelle des scénogrammes. Et donc, ça permet de suivre la biodiversité passée. Alors, qu'est-ce qu'un scénogramme, en fait? C'est un diagramme qui représente, en fait, on fait l'inventaire, en fait, de tous les animaux présents dans un milieu naturel. On va les classer, les peser, et les classer du plus lourd au plus léger. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en écologie dans certains milieux naturels. Et à chacun de ces profils de scénogrammes va correspondre un environnement particulier. Donc là, par exemple, vous avez un éléphant, ici là-haut, avec le poids en grammes, donc entre 1 et 10 tonnes, et puis après des animaux beaucoup plus petits. Donc ça donne des répartitions comme ça. Et donc, en fait, ce qui est étonnant, c'est que, ben, vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure avec les dents, la taille de la dent est proportionnelle à la taille et au poids de l'animal. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas le poids des animaux du passé, par contre on a leur taille dedans, et donc on va pouvoir remonter jusqu'au poids de ces animaux, et donc arriver à tracer des paléocénogrammes. Et si on fait ça sur l'ensemble des phosphatières du Quercy, ça corrèle complètement ce qu'on a avec quelques animaux, un lémurien qui fait une forêt tropicale, un rhinocéros qui fait une savane, c'est un peu court, si on n'avait que ça, ben, ça ne serait pas grand-chose, mais c'est à partir de l'ensemble des animaux retrouvés dans un même dans une même phosphatière qu'on peut arriver à retracer ces paysages du passé. Et on s'aperçoit en fait que vers 34 millions d'années, on a un changement de paysage dans le Quercy. Et si on regarde sur l'ensemble du monde entier, ça correspond à un phénomène que les paléontologues appellent la grande coupure. Et donc, c'est un phénomène qu'on retrouve dans l'ensemble du monde entier. Il y a des changements de faune comme ça qui font ça. Alors, ce phénomène-là, en fait, il est dû à un refroidissement climatique à la surface de la Terre, assez lent, qui va en fait permettre à un certain nombre d'espèces de pouvoir migrer vers d'autres endroits. Donc notamment le Cadurcotherium, c'est un migrant d'Asie centrale, puisque une fois qu'on a identifié dans le Quercy des Cadurcotherium d'ici, ben, par la suite, on a identifié en Asie centrale des quadricotères de là-bas, du coup qui ne s'appellent pas les quadricotères, qui est Luxi, mais d'autres choses. Et du coup, ben, on s'aperçoit qu'ils sont plus anciens. Donc ça veut dire que les quadricotères d'Asie centrale ont migré en Europe, en fait, à cette époque-là. Et ils ont pu migrer, en fait, parce que avant 34 millions d'années, l'Europe et l'Asie étaient séparées. À 34 millions d'années, le continent, le supercontinent eurasiatique s'est formé, et donc ces animaux ont pu se déplacer ainsi. Voilà, donc ce changement climatique s'est accompagné aussi de migrations d'animaux qui sont venus coloniser de nouvelles terres qui leur correspondaient. Voilà. Alors, en conclusion, ces phosphatières, donc qu'est-ce que ça représente en fait ? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ça représente plusieurs millions de fossiles analysés. Ça représente plus de 700 espèces identifiées, plus de 200 sites étudiés et plus de 30 millions d'années de longueur d'enregistrement. Alors ces chiffres sont déjà faux parce qu'il y a déjà beaucoup plus que 700 espèces, beaucoup plus que 200 sites étudiés. Et ce n'est pas publié officiellement, c'est pour ça que je ne suis pas habilité à le mettre, mais il semblerait qu'on ait trouvé une phosphatière âgée seulement de 1,5 million d'années, ce qui ramènerait la période en fait, d'enregistrement à 50 millions d'années. Alors là, quand on le compare par rapport au monde entier, donc ces enregistrements-là, on en trouve dans très très peu d'endroits du monde. Donc on en trouve dans le Wyoming aux États-Unis, dans le désert de Gobi entre la Chine et la Mongolie, dans les régions de Riverlay au nord de l'Australie, dans le centre de l'Espagne et dans le Quercy. Donc vraiment très, très exceptionnel. Et si on prend cette période de 50 millions d'années, ben là, seul le Quercy contient en fait ça. Alors du coup, ben ça, c'était pas bien mis en valeur jusque-là. C'était pas, les paléontologues, ben, c'était pas leur métier de communiquer là-dessus. Et du coup, ben, c'est un petit peu devenu le nôtre. Donc au départ, le site du Club d'Oral s'est ainsi monté. Et puis, donc, on a eu le relais en fait, du territoire sur lequel nous sommes. Donc nous avons la chance, parce que là, pour nous, c'est vraiment une chance, d'être dans un parc naturel régional, le parc naturel régional des Causses du Quercy, donc qui couvre à peu près le tiers du département du Lot, en gros en partant de Rocamadour et puis en allant jusqu'aux frontières du Tarn-et-Garonne. J'espère qu'un jour, les communes qui le souhaitent pourront rejoindre en fait, le parc, voilà, si elles le souhaitent. Bon, ça c'est un vœu que j'ai, après il est plus politique qu'autre chose. Mais voilà, le parc, en fait, ça fait 20 ans qu'il est constitué, et puis en 2012, il a un petit peu infléchit sa politique concernant la géologie. Et du coup, il s'est aperçu que le calcaire, ben, c'était important pour le territoire. Et donc, ils ont développé une politique en allant vers le géotourisme. Donc, il y avait les phosphatières à ce moment-là qui avaient dépassé 10 000 visiteurs par an. Et donc, ils se sont dit que ça serait bien de faire quelque chose pour faire quelque chose pour le géotourisme. Donc, en fait, ils ont notamment demandé un label particulier donc, que vous avez là. Donc, c'est le label Géoparc UNESCO. Donc, ils ont donné un dossier. Ils ont convaincu les élus qui étaient autour de soutenir le dossier. Donc, un géoparc, qu'est-ce que c'est ? C'est un territoire, en fait. Il y en a seulement aujourd'hui 200 dans le monde qui met en avant sur son territoire sa géologie, sa paléontologie actuelle, exceptionnelle, à la fois pour un outil touristique, mais aussi un outil pédagogique et un outil d'information des habitants. Et donc, du coup, le site du Club d'Oral est alors devenu un centre de médiation majeur de ce parc naturel régional. Alors l'historique du site, c'est qu'au départ, c'est une association locale de gens qui habitaient autour de Limogne et de l'Albinque qui se sont constitués en association en 1992. En 1994, ils ont décidé de créer le site des phosphatières du Club d'Oral, donc en gros, d'acheter une décharge pour la faire visiter aux touristes. Au départ, c'était le gros raccourci qui a été pris. Et puis, donc derrière, il y avait quand même tout ce patrimoine qui est là. Ce patrimoine, ben, ils l'ont mis en valeur. Ils ont démarré les visites le 1er juillet 2000, donc là aussi, ça fait 19 ans. Je pense qu'on aura des anniversaires à fêter l'année prochaine. Et donc, ben, ils se sont mis avec quelques bénévoles au départ à faire visiter le site. Par la suite, le site a pris de l'ampleur, 2000 visiteurs en l'an 2000, aujourd'hui plus de 14 000. Et donc le parc naturel régional des Causses du Quercy a décidé de nous donner un petit coup de pouce. Donc les marches, pour ceux qui étaient déjà venus sur le site, étaient assez glissantes quand il pleuvait. Les sentiers qui sont autour, ben, commencent un petit peu à vieillir. Depuis 2007, ils n'ont pas été trop touchés. Et puis, on avait un manque cruel de locaux parce que ben, toutes ces merveilles paléontologiques dorment aujourd'hui dans des laboratoires de paléontologie ou dans des musées et donc sont inexposables sur le site du Club d'Oral. Donc du coup, l'idée,
ça a été de demander à la communauté de communes qui l'a accepté de prendre en charge du coup le site. Donc le site est devenu propriété de la communauté de communes depuis le 1er mars. Également, la gestion est passée de l'association à l'office de tourisme. Et donc l'équipe salariée dont je fais partie, aujourd'hui on est employé par la communauté de communes. Et donc du coup ça nous permet d'avoir un nouvel élan. Donc des travaux ont été réalisés à l'intérieur du site, donc les marches ont été refaites. Là si vous venez, vous pouvez revoir un petit peu ce que ça donne. Dans 2 ans normalement on refait l'intégralité des petits sentiers qu'on a autour du site. Et on espère dans quelques années avoir un musée sur le site qui permettra de recevoir beaucoup plus de fossiles. Et on l'espère avoir plus longtemps les paléontologues présents sur le site. Alors, au niveau de ces paléontologues, en fait, chaque année, vous l'avez compris, ils viennent dans le Quercy. Donc au départ, ils s'organisaient eux-mêmes leurs fouilles et finalement, ils avaient un peu quelques difficultés, ils étaient en concurrence un petit peu. Et là, depuis 2006, l'association organise des fouilles et les fait venir chaque été. Donc au départ, c'était un petit peu informel. Maintenant, ça devient beaucoup plus organisé. Donc on se sert du site, en fait, un petit peu comme une base arrière. Donc ils vont dans les phosphatières pour aller prélever. Donc là, par contre, c'est pas accessible au public parce qu'ils doivent descendre en méthode spéléo, etc. Et puis après, donc, ils viennent sur le site, ils lavent le résultat de leur tamisage, ils les font sécher au soleil. Et puis après, il y a une petite salle ici où on a en fait des fossiles que les gens peuvent voir. Alors au premier plan, là, vous pouvez me voir là. Juste derrière, vous voyez J. Escarguel, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, donc, c'est une journée qu'on organise le 20 juillet. Alors, je ne vais pas trop vous en parler parce qu'il reste très, très peu de place. En fait, c'est le safari paléontologique. Et donc, du coup, ça permet pendant 3 heures d'aller à la fois voir les paléontologues et puis descendre dans une petite phosphatière qu'on a sur le site. Là. Celle-là est sur le site, mais elle n'est pas du tout accessible d'habitude parce que vous le voyez, il faut une corde et une échelle pour descendre à l'intérieur. Et donc, exceptionnellement, pendant cette journée, on peut descendre dans cette petite grotte. Là. Alors, comme il reste très, très peu de place, j'ai plutôt choisi de vous parler de la possibilité qu'il y a, en venant sur le site, donc du 10 au 21 juillet, de venir à la rencontre des paléontologues, où là, vous pourrez aller dans le petit laboratoire qui est là, rencontrer quelques-unes des figures que je vous ai présentées tout à l'heure, pour discuter avec eux, et ils se feront un plaisir de vous montrer un petit peu leurs trouvailles, et de vous présenter un petit peu les dernières trouvailles qu'ils ont faites. Voilà donc un petit peu ce que sont ces phosphatières. Donc j'espère vous avoir donné envie un petit peu de mieux découvrir ce patrimoine paléontologique et puis également, si vous le souhaitez, de venir nous voir. Alors, petite précision, donc on organise des visites guidées payantes du site. Par contre, si vous voulez juste venir rencontrer les paléontologues, vous pouvez venir aux horaires d'ouverture du site. Donc là, j'ai laissé quelques dépliants. C'est gratuit, en fait. Vous nous dites simplement, on a envie d'aller rencontrer les paléontologues. Vous discutez avec eux. Et puis, si vous avez envie de faire la visite guidée, vous venez nous voir pour payer la visite. On se fera un plaisir d'aller vous accompagner à l'intérieur du site. Voilà, donc un petit peu. Merci de votre attention. Merci encore de votre invitation. Et puis, donc, j'ai pas voulu vraiment tout expliquer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant.